Voici le journal d'Amélie Perrier. Bonjour Amélie.
Bonjour Marc, bonjour à tous. Une présidence sans limite, le chinois Xi Jinping est sur le point de faire modifier la constitution pour se maintenir à la tête du géant asiatique à vie. Un froid venu de Sibérie, la France grelotte et les chauffages tournent à plein régime. Faut-il s'inquiéter du réseau électrique? Tout est sous contrôle, nous dit-on à RTE. Des syndicats bouillants, eux, à quelques heures des annonces du gouvernement sur la réforme de la SNCF. Des sénateurs socialistes en guerre contre le verrou de Bercy, cette règle qui empêche le parquet de poursuivre les fraudeurs fiscaux. France Inter vous révèle ce matin leur proposition de loi. Et puis l'affaire Cézanne sera-t-elle résolue? Un siècle après, des ossements ont été découverts ce week-end dans la maison des Cézanne.
7h50, le député Les Républicains du Lot, Aurélien Pradier, invité d'Hélène Philly. Un président à vie à la tête de la première puissance mondiale.
Le poste a de quoi faire envie et Xi Jinping compte bien le garder. Le président chinois au pouvoir depuis 5 ans est sur le point d'obtenir une modification de la constitution. Le comité central du parti communiste s'apprête à effacer la restriction à 2 mandats pour le chef de l'État. Alors est-ce le retour de l'empereur de Chine? Réponse à Pékin avec notre correspondante Dominique André.
Les experts le prédisaient depuis plusieurs mois, c'est un bouleversement qui s'annonce. La constitution de 1949 est sur le point d'être modifiée pour permettre à Xi Jinping, 64 ans, de rester au pouvoir autant qu'il le souhaite. Il suffit d'effacer la mention qui stipule qu'un président ne peut pas exercer plus de 2 mandats consécutifs de 5 ans. Dès ce matin, le comité central du Parti communiste se réunit en plénum dans la plus grande discrétion pour préparer le terrain avant la session annuelle du Parlement chinois qui, la semaine prochaine, votera, comme à l'accoutumée, les décisions du parti. Le PC appelle aussi à inscrire dans la Constitution la pensée de Xi Jinping sur un socialisme aux caractéristiques chinoises. Xi Jinping, qui concentre les pouvoirs, ne s'est jamais prononcé, bien sûr, sur ses intentions de rester au pouvoir à vie, mais on entend de plus en plus, pour le désigner, le terme de Ling Xiu qui évoque un chef au-dessus de tous, terme utilisé encore aujourd'hui pour Mao. Pékin, Dominique André, France Inter.
Lui continue de bombarder ses opposants pour se maintenir au pouvoir. Le Syrien Bachar al-Assad n'a que faire apparemment du cessez-le-feu exigé dans la résolution de l'ONU, votée samedi. Hier, les combats se poursuivaient dans la Ghouta orientale, cette province en bordure de Damas, pilonnée sans merci depuis plus d'une semaine. Plus de 500 civils auraient déjà perdu la vie dans ces bombardements. Un groupe rebelle accuse même le régime d'utiliser des armes chimiques, une attaque au chlore. Un médecin témoigne de cas de suffocation. En République démocratique du Congo, l'opposition incarnée ces jours-ci par les catholiques, elle aussi réprimée. Un fidèle est mort hier lors d'une manifestation des marches catholiques pour dénoncer le maintien au pouvoir du président Joseph Kabila, malgré la fin de son mandat depuis plus d'un an.
7h33, ça s'appelle un Moscou-Paris.
Oui, c'est un cocktail venu de Russie, des températures polaires et du vent pour augmenter la sensation de froid. La France traverse un épisode hivernal sévère autour des moins 10 degrés jusqu'à moins 18 ressentis. Conséquence, les chauffages vont fonctionner à plein régime. Et vous avez d'ailleurs peut-être reçu ce mail d'EDF vous alertant du surcoût de ces quelques jours de froid intense. Chez RTE, le réseau de transport d'électricité, Jean-Paul Robin se veut rassurant, les fournisseurs vont faire face.
Chaque degré en dessous de la normale se traduit par une augmentation de la consommation d'électricité de 2400 MW, soit l'équivalent de la consommation de Paris Intramuros. Et donc on voit une consommation française d'électricité qui pourrait atteindre 93 000 MW mercredi matin. Pour autant, nos prévisions montrent que, à partir de l'offre qui existe en France, hein, pour couvrir cette consommation, eh bien, on pourra couvrir la majorité de cette consommation et qu'on devra importer un petit peu d'électricité de l'ordre de 1000 à 2000 MW de l'étranger pour satisfaire le besoin de consommation des Français. On n'a pas d'alerte particulière à ce stade-là. Les contacts que nous avons noués, que nous nouons quotidiennement et 24 heures sur 24 avec nos homologues étrangers montrent que, à la fois depuis l'Allemagne et à la fois depuis l'Espagne, on aura de l'électricité disponible qui pourra être importée en France et qui permettra d'assurer la sécurité d'approvisionnement.
Jean-Paul Roubin, le directeur de l'exploitation de RTE, il répondait à Hélène Philly. Un autre réseau à remettre sur les rails, celui de la SNCF. Le gouvernement dévoile aujourd'hui sa méthode et son calendrier. février. Le Premier ministre Édouard Philippe va s'appuyer sur le rapport Spinetta, où l'ancien patron d'Air France propose la fin du statut de cheminot à l'embauche, ou encore un audit sur les lignes secondaires, souvent peu rentables. Les syndicats menacent le gouvernement d'un conflit majeur s'il choisit de réformer par ordonnance pour aller vite et sans débat. Eux veulent faire sauter le verrou de Bercy. C'est une exception française. Seul le ministère des Finances peut décider d'entamer des poursuites judiciaires contre un contribuable fraudeur. La justice et le parquet national financier, notamment, n'ont pas la main. Une incongruité vieille de près d'un siècle, mais France Inter vous le révèle ce matin, des sénateurs socialistes vont déposer dans les jours à venir une proposition de loi pour mettre fin à cette spécificité fiscale française. Cyril Gradiani.
Les socialistes veulent forcer le verrou. Près d'un siècle après sa création, les sénateurs PS, emmenés par Marie-Pierre de la Gontrie, sont bien décidés à faire disparaître tout bonnement le verrou de Bercy. Dans leur proposition de loi qui sera déposée début mars, il est stipulé, article 1, que ce verrou sera supprimé pour renvoyer comme n'importe quel délit au procureur de la République le soin d'apprécier les suites à donner aux faits constitutifs de fraude fiscale. Une suppression que le parquet national financier appelle de ses voeux. Déjà l'été dernier, le verrou avait failli sauter. Dans le projet de loi restaurant la confiance dans l'action publique, les sénateurs avaient voté à l'unanimité un amendement proposant sa levée partielle, mais il avait été rejeté ensuite par les députés, malgré une coalition allant des insoumis à LR, en passant même par le Modem. Cette fois, c'est par une proposition de loi que les sénateurs socialistes reviennent à la charge. Si au Palais du Luxembourg, le texte a toutes les chances d'être adopté, c'est une fois de plus le vote des députés qui sera décisif, et La République En Marche, qui l'a encore, aura la clé.
Les socialistes en guerre contre le verrou de Bercy, le document de travail des sénateurs est à consulter sur franceinter.fr. Un service civique réservé aux étudiants en santé. Le gouvernement donne le coup d'envoi cet après-midi du service sanitaire. En fait, il s'agit de mobiliser les jeunes sur des actions de prévention. C'était une promesse du candidat Macron. Les précisions avec Véronique Julien.
La prévention en matière de santé, prévenir plutôt que guérir, c'est un thème cher à Emmanuel Macron, mais elle n'est pas assez inscrite d'après lui dans la culture française. Mieux se nourrir, résister aux addictions, lutter contre la sédentarité, faire du sport, ce sont des messages qu'il veut transmettre partout, dans les écoles, les collèges, les lycées, les maisons de retraite, les prisons. Et rien de tel pour jouer les messagers que des étudiants en santé, des futurs infirmiers, médecins, kinés ou dentistes. Avec ce service sanitaire, on fait d'une pierre deux coups, c'est le but en tout cas. On touche un maximum de monde et on sensibilise les futurs professionnels. Si on veut que la prévention s'impose, il faut l'intégrer dès la formation. Le service sanitaire devrait durer 3 mois en tout, mais il ne se fera pas forcément d'un bloc en une seule fois. Il sera intégré à la maquette pédagogique de chaque université. Une partie sera théorique en amphi, une autre sera pratique au contact des gens. 40 000 étudiants seront concernés avec une généralisation prévue pour la rentrée prochaine. Pour l'instant, seuls quelques établissements ont joué les précurseurs. Les facs d'Angers et de Clermont-Ferrand notamment ont déjà intégré à leur formation un volet dédié à la prévention.
Le service sanitaire devrait entrer en vigueur à la rentrée prochaine. La clé de la réconciliation à droite, elle, semble être bien perdue. Nouvelle illustration hier sur LCI. Le « on ne pourra pas continuer longtemps comme ça » de Jean-François Copé, ancien président de l'UMP, à propos de son successeur Laurent Wauquiez, nouveau président des LR. Et détaillé, je cite, « on ne pourra pas continuer longtemps d'imaginer, d'espérer reconstruire la droite française uniquement avec, à sa tête, quelqu'un dont l'objectif est systématiquement de poignarder tous ceux qui, de près ou de loin, pourraient lui donner le sentiment d'incarner le début d'une concurrence. Voilà, en tout cas, les couteaux sont loin d'être rangés à droite.
C'est l'un des plus vieux mystères judiciaires français, vieux de près d'un siècle.
Oui, l'affaire Seznec. Des fouilles ont permis de retrouver des ossements humains ce week-end dans l'ancienne maison de la famille, à Morlaix, dans le Finistère. Guillaume Seznec a été condamné en 1924 au bagne à perpétuité pour le meurtre, l'année d'avant, de Pierre Quémeneur, un élu du département. Le corps du conseiller général n'a jamais été retrouvé. Jusqu'à ce week-end, peut-être, les restes vont être analysés. C'est un ancien avocat de la famille qui a en fait lancé ses fouilles pour valider sa thèse. Selon lui, l'épouse de Seznec aurait tué involontairement Quémeneur en se défendant de ses avances et son mari aurait caché le corps. Écoutez, cet avocat, Denis Langlois, il a été entendu hier par la police et pour lui, c'est déjà une victoire.
C'est quelque chose que je demandais depuis 3 ans. On m'a auditionné pendant 1h30, 2h. J'ai remis à la police un certain nombre de documents, des éléments du dossier décrivant Quémeneur et permettant éventuellement de voir s'il s'agit bien du squelette de quémeneur que l'on trouve. J'espérais qu'il y aurait des rebondissements, mais ça s'est bousculé. C'est une journée historique, c'est quelque chose d'exceptionnel de découvrir juste un ossement humain. J'ai jamais dit je suis sûr à 100%, hein. Ce serait très prétentieux. Et... Non, je disais que c'était... La thèse qui entrait le moins en contradiction avec les éléments du dossier. Donc j'étais très prudent. Bon, je suis toujours prudent parce que il faut quand même qu'il y ait l'expertise de ces ossements. On a réussi à faire bouger les autorités judiciaires alors que pendant 3 ans, nous n'avions que des réponses négatives.
L'ancien avocat de la famille Cézanne Denis, l'angle au micro d'Hervé Cressard. Des soutiens et de quoi payer ses avocats largement. Une opération de levée de fonds sur le net a permis de récolter en 4 jours plus de 100 000 euros pour Tariq Ramadan, l'islamologue suisse en détention provisoire. 2 femmes l'accusent de viol. Sa demande de remise en liberté pour raison médicale a été rejetée par la justice la semaine dernière. Une pétition demandant sa libération a également recueilli plus de 110 000 signatures pour l'instant. Une victoire en sport, mais beaucoup d'inquiétudes aussi pour les Parisiens. Les footballeurs de la capitale ont écrasé hier soir Marseille 3-0 au Parc des Princes. Seulement voilà, la star Neymar est sorti sur civière, blessé à 10 jours de son match crucial en Ligue des Champions contre le Real Madrid. Une très mauvaise opération pour le PSG, Sébastien Hazard, et c'est au pire moment.
9 jours, c'est court. Dans 9 jours, Paris va défier le Real Madrid avec ou sans Neymar. Le Brésilien a quitté le Parc des Princes, la cheville droite strappée, en s'appuyant sur des béquilles. Direction l'hôpital américain de Neuilly pour passer des examens complémentaires dans la nuit. Neymar au sol, les mains sur le visage, en larmes, se tordant de douleur. Cette image a figé le Parc des Princes. Il restait un petit quart d'heure de jeu. Jusque-là, l'attaquant brésilien, victime de nombreuses fautes, s'était toujours relevé. Là, il est resté allongé. Le pire, il s'est visiblement blessé tout seul. Un mauvais appui, la cheville droite qui tourne et qui enfle, impressionnant, ont expliqué plusieurs de ses coéquipiers, en espérant que son indisponibilité ne soit pas trop longue. Unai Emery, l'entraîneur parisien, sitôt le match terminé, se voulait plutôt optimiste, indiquant que s'il devait se prononcer à chaud sur la participation ou non de sa star au prochain match de Ligue des Champions, entre oui ou non, il dirait oui, mais seules les prochaines 48 voire 72 heures permettront d'être plus précis.
Et du foot sur console, c'est aussi possible, vous aurez moins froid ces jours-ci. En tout cas, le secteur cartonne, le jeu vidéo français affiche une croissance record des ventes en hausse de 18% en 2017, selon le dernier bilan annuel dressé par le syndicat des éditeurs. Chiffre d'affaires historique pour l'ensemble des ventes de matériel, les jeux, mais aussi les consoles et les PC. Alors à quoi ajoutons le plus? Au foot donc, avec FIFA 18, à la guerre avec Call of Duty, à sauver des princesses aussi avec The Legend of Zelda, et puis à se battre avec Assassin's Creed Origins, finalement rien de très moderne.
C'est la vraie vie quoi, voilà. Les princesses, le foot. Merci beaucoup Amélie.
Votre vie.
Perrier, non pardon, merci beaucoup Amélie Perrier. La route, tiens, ça c'est pour de vrai ce matin avec Armel Balogog, autoroute coupée vers Dijon ce matin Armel.
Et oui, sur l'A31 dans le sens Luxembourg-Lyon entre Bretenières et Ouges, l'autoroute donc coupée sur 11 km depuis un grave accident entre une voiture et un poids lourd. Un bouchon de 3 km s'est formé en amont et risque d'empirer. Des ralentissements sur l'A1 après un accident dans l'Oise, dans le sens nord-sud entre Lille et Paris. 2 voies de circulation sur 3 sont neutralisées donc après cet accident. Et ça coince aussi au péage de Senlis en direction de Paris et puis pendant 5 km avant d'atteindre le périphérique. La Haute-Garonne connaît un épisode de pollution en particules fines. Aujourd'hui, vous devez rouler 20 km/h en dessous des limites de vitesse dans ce département.
7h43 sur France Inter.